Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de Psychodébat. Donc un psychodébat là-bas, c'est quoi? C'est une réunion en physique où les gens se réunissent pour parler d'un sujet en particulier et de l'impact que ça a sur eux, partager une anecdote et des solutions, parce que c'est un peu croire à l'énergie de groupe pour se questionner sur des sujets de société différents sujets qui nous impactent psychologiquement en tant qu'être humain ou dans la société. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la surconsommation. Donc c'est un mot qu'on entend partout, mais qu'on n'interroge pas souvent, hein, qu'on vit au quotidien et qui nous accompagne un peu dans tout ce qu'on fait. C'est vrai qu'on vit dans un monde où consommer, c'est plus seulement un besoin, mais c'est presque une obligation. On se retrouve avec des diktats qui sont imposés par des pubs, par les réseaux. Et on ne sait plus aussi ce qui sont nos désirs, nos besoins, nos envies, ou ce qui nous est imposé. Aujourd'hui, on va être accompagné de deux personnes. Je vais les laisser se présenter et dire bonjour. Je vous laisse.
Bonjour.
Allez. Je crois qu'on vous a pas entendu, les filles, vous pouvez y aller.
Ah, bonjour.
Bonjour.
Donc oui, moi je trouvais ça important d'aborder ce sujet à cette période-là, parce qu'on est dans une période de ramadan ou de carême, pour les gens que ça intéresse. Et moi, c'est sur un moment dans l'année en général où je suis plutôt dans la sobriété. Donc parler de surconsommation, je trouvais que c'était une balance intéressante et de vraiment se questionner, parce que c'est une période de ma vie où moi, en général, je me questionne beaucoup sur mon mode de consommation et même ma manière de consommer les choses, que pas seulement physique, mais même dans l'audiovisuel, etc. Je me pose beaucoup de questions dans ma vie à ce moment-là. Et je voulais avoir un avis de tout le monde par rapport à cette question de surconsommation. Et est-ce que vous aussi, c'est un moment où... On va commencer par l'inverse, se demander est-ce que c'est un moment de votre année ou pas, où vous êtes plus dans cette sobriété, et qu'est-ce qui différencie de votre quotidien en général sur la surconsommation et la consommation en général?
Pour ma part, bon, déjà, moi c'est Diana.
Oui, bonjour Diana.
bonjour. Et pour répondre à ta question, oui, c'est clairement, je pense, le cas pour beaucoup de personnes, donc dont moi, parce que... Pendant cette période de ramadan, on a juste envie d'une chose, c'est de prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit. Et du coup, qui dit prendre soin de son corps, c'est de ne pas aller dans les excès, en fait, et de revenir à l'essentiel. Dans mon cas, je sais que j'attendais que ce moment-là, justement, pour avoir aussi cette facilité psychologique, parce que quand on se dit ramadan, on se dit facilité, on se dit plus d'heures, etc. Enfin bref. Et donc, il y a une facilité de consommer moins, enfin dans sa démarche de consommer moins mais mieux, et surtout c'est une bonne période pour une pleine conscience justement de tous nos actes, en fait, que ce soit de la nourriture jusqu'à même acheter de manière générale, quoi, pas seulement la nourriture. Je sais pas ce que vous en pensez.
Grave. Moi personnellement, c'est justement le ramadan qui a changé tout mon mode de vie, en fait. Tu sais, au début... Après, ça dépend des cheminements, mais tu te dis, voilà, je vais me plonger dans le mois du ramadan et je vais me mettre à fond, je vais essayer de me couper des distractions, tu vois, du superficiel, etc. Pour vraiment... en fait, t'as vraiment envie de nettoyer ton âme. Et puis, petit à petit, il y a comme une genre de dissonance, en fait. C'est contradictoire de se dire, bah, pourquoi est-ce que pendant un mois, je fais attention à ce que je fais, à ce que je consomme, à ce que je mange, à ce que je pratique comme activité ou comme, enfin voilà, à mon quotidien. Et pourquoi, une fois que le ramadan se termine, je retourne un peu dans mes travers, tu vois, je continue à mal manger, à mal consommer, à mal faire tout ça. Donc c'est ce genre de réflexion, moi, qui m'a vraiment... En fait, ça a changé toute ma vie. Donc aujourd'hui, il n'y a plus, ou presque plus, de différence entre ma vie de tous les jours et le ramadan, tu vois.
Ouais, trop bien. Moi, ce que tu décris, je pense que c'est plus un but à atteindre. J'ai beaucoup plus de discipline pendant ce mois-là, que ce soit dans ma consommation ou autre. Bon, évidemment, le truc le plus visible, c'est ne pas manger, ne pas boire, c'est ce que tout le monde voit, c'est ce qu'on voit, et c'est même, ça fait partie du rite de le faire, quoi, de ne pas manger, de ne pas boire. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de force supplémentaire et ça me permet, il y a des habitudes que j'ai gagnées en les faisant à ce moment-là. Mmh. C'est pour ça que moi, je ne blâme jamais les personnes qui en font trop peut-être à ce moment-là, parce que c'est peut-être des habitudes, des pensées ou des manières de vivre et de faire qui peuvent s'appliquer de en parcimonie et qui peuvent après devenir des habitudes dans la vie quotidienne et pas seulement à ce moment-là. Mmh. Donc moi, c'est un objectif plus de vie de m'aligner avec la personne que je suis à ce moment-là. Parce qu'il y a plein de trucs. Je sais que, par exemple, que j'ai passé la plupart de mes examens pendant le mois de Ramadan. Enfin, ça a collé souvent dans des périodes de révision, de machin. J'ai eu des performances aussi en sport qui étaient supérieures à ces périodes-là, alors que, bon, voilà. Donc, il y a ce truc de... j'utilise beaucoup trop cette expression, mais je lock-in encore plus à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est un truc qui a des répercussions, après, sur le reste de mon année. J'ai l'impression que ça fait comme un nouveau cycle à chaque fois, et que ça me permet de me recentrer et après de pouvoir voir ce qui est applicable dans mon quotidien. Mmh. Je sais que je suis pas parfaite, c'est pour ça que je blâme pas aussi les gens. Chacun son cheminement, chacun sa manière de faire les choses. Mmh. Mais ouais, moi je trouve que ce serait vraiment j'aimerais avoir cet alignement et de me dire que je suis fait. Cette personne-là.
Ok, je nous l'accorde.
Franchement, oui.
Parce qu'il y a un truc qui me revient là par rapport à ce que vous disiez toutes les deux. Par exemple, toi, quand tu parlais des publicités, par exemple, qui sont faites à outrance et qui, justement, nous poussent à consommer. Toi, à côté, qui dis que tu as enfin réussi à faire de ton rythme de Ramadan, bah, en fait, un rythme de vie tout court. Ça me renvoie, en fait, à moi. Je vais pas dire mon incapacité, mais plus... j'ai pas encore atteint ce truc, pourtant je l'ai dans ma tête, c'est vraiment un but que je vise, mais en fait, faut dire les termes, je suis honnête avec moi-même, et en fait, je suis tellement faible avec toutes ces publicités, toutes ces actions qui sont mises en œuvre pour que l'humain, en fait, il puisse aider facilement à la consommation. Je me suis beaucoup restreinte sur beaucoup de choses, mais n'empêche que... Vu que je suis une meuf trop branchée, par exemple, sur les réseaux, les trucs comme ça, complètement à l'affût de tout ce qui peut se passer, en fait...
Ça t'absorbe. Ça te mange.
Mais oui,
en fait.
Ça absorbe mon âme, littéralement, mon âme, malheureusement. Alors que pendant le Ramadan, comme il disait, il y a comme une force qui t'accorde cette... Enfin, qui te permet d'avoir cette... En fait, cette force en toi, en fait, ou juste lâcher prise et ce truc de... Je m'en fous, en fait, de ce qui se passe dans la vie, dans ce monde capitaliste qui veut notre argent, puisque là, tout ce qui compte, c'est mon âme, quoi. Donc, je vais tout donner pour... Parce que, enfin, voilà, c'est comme ça.
Parfois, on se rend pas forcément compte, tu vois. On se dit, oui, bon, c'est juste ne pas manger et pas boire.
Non, c'est
mais en fait, la
ça.
Nourriture, c'est quelque chose aujourd'hui qui règle nos... Enfin, qui, je sais pas comment on dit ça, qui règle nos quotidiens, en fait. Mm-hmm. On tourne autour de la nourriture.
Il y a un rythme.
Voilà, il y a un rythme autour de la nourriture, en fait. Ça veut dire que ta journée, ton travail, tes études, elles sont organisées autour de la bouffe.
C'est une dinguerie,
tu vois. Tu vas te réveiller à une certaine heure pour manger. Tu vas faire une pause à ton taf pour manger. Tu vas faire une pause encore pour un café, un goûter, et ainsi de suite jusqu'au dîner. Enfin, il y a des personnes qui mangent 7 fois par jour. Il y a des personnes qui mangent 6 fois par jour. Donc, on est vraiment... on tourne autour de la bouffe, en fait, tu vois.
Mais ça, c'est occidental, ça. Parce que quand tu regardes les mondes orientaux et tout, même en Afrique, c'est pas comme ça.
C'est ça.
Ça n'a rien à voir.
Et le fait, du coup, de te priver de nourriture, ça... Mets ton cerveau en pause. En fait, pour une fois dans ta journée, t'as pas à réfléchir à ta pause du midi. Ta journée, elle est pas coupée par rapport à tes pauses déj. Là, c'est juste... en fait, ta journée, elle est orientée... comment dire ça ? Tu orientes ta journée en fonction déjà du temps.
Oui,
tu vois, et du coup, en fonction des saisons aussi, parce que du coup, c'est à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et là, t'es beaucoup plus en. Y a une connexion qui se fait avec la nature, en fait. Tu vois, chose que la société, le système ne veut plus qu'on ait, en fait. Ça se perd énormément. Et on doit avoir cette connexion avec la nature, c'est essentiel.
Et d'ailleurs, quand tu parles de connexion avec la nature, ça me fait penser à connexion avec notre corps aussi.
Oui.
Quand on jeûne, je ne sais pas si vous le ressentez, moi, je sens littéralement mes poumons faire « chut ». Alors que quand je mange toute la journée là, avec nous 3-4 repas par jour, bah, ça, je ne le ressens pas. Genre, je sens que dans ma tête, ok, je sais ce qui se passe et tout, mais dans mon corps, je ne me sens pas connectée comme je le suis pendant le Ramadan, enfin pendant cette période de jeûne.
Et du coup, tu t'adaptes aussi à ta condition physique. Tu vois, il y a des choses que tu peux faire le matin, il y a des choses que tu peux pas faire le soir. Et en fait, normalement, la vie, c'est comme ça. Il y a des choses que tu peux faire en hiver, que tu peux pas faire en été. Et on est censé vivre au rythme des saisons, de notre corps, tu vois, même des animaux, par exemple, tu vois, de l'agriculture. Enfin, il y a tellement de choses, on devrait s'adapter. Et ben là, le Ramadan, il te force à le faire. Et ça passe par la nourriture.
Moi, dans cette idée de forcer le rythme, j'ai totalement l'exemple. C'est que, comme je me réveille plus tôt pour pouvoir manger, d'ailleurs, je mange très légèrement le matin parce que j'arrive pas de base J'avais posé cette question sur les réseaux, qu'est-ce que vous mangez le matin ?
Des œufs brouillés.
Il y a des gens qui mangeaient des repas en entier, franchement, moi, c'est pas
c'est
possible.
C'est trop la base.
Mais chacun son estomac, vraiment. Et du coup, je me rendors pas, parce que là, on se retrouve avec des horaires qui se rapprochent des heures de réveil.
Ouais.
Et donc, je prends plus de temps pour me préparer et je marche pour aller au travail. Mmh. Alors que d'habitude, moi, je suis pas du matin. Donc je sors à la dernière minute, je prends le métro qu'il faut pour arriver pile à l'heure. Mais là j'arrive beaucoup plus tôt parce que je marche pour aller au travail, parce que j'ai tout ce temps là où comme je vis à un rythme différent, et je sais que je vais garder ce rythme genre un mois après, et après ça va être délétère, je vais reprendre dans des habitudes de me réveiller à la dernière minute, etc. Mais ouais, c'est appréciable de se sentir libéré d'un truc, et c'est vrai que c'est lié du coup à redéfinir un rythme différent. Donc, je trouve ça super beau de voir que c'est possible, que d'avoir cet exemple-là concret qui est plus ou moins imposé, mais qui nous permet de voir qu'il y a une possibilité de le faire. Et même aux gens qui n'arrivent pas, c'est pas grave. Genre, si tu le fais une journée et que ça a fonctionné qu'une journée, ben, tu peux t'appuyer sur cette journée en te disant « Ah, si je pouvais le refaire, ça compte en guise d'exemple ». Moi, j'aime pas trop ce truc de culpabilisation, de se dire il faut que j'ai du coup cette consommation parfaite à ce moment-là. Si t'as fait un truc, c'est bien. Genre,
pour bien moi, sûr.
Je pars de ce principe-là et que ça avance sur cette thématique-là. Moi, je voulais vous poser une question à toutes les deux. Est-ce que vous avez l'impression que dans votre consommation au quotidien, vous suivez facilement vos envies, ou vous êtes très questionné sur ce que vous consommez ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Ok. Et
tu peux répéter, pardon. Ouais.
Est-ce que dans votre consommation, est-ce que vous prenez en général, que ce soit dans l'habillement, la manière de vous nourrir, vous êtes une personne qui se pose beaucoup de questions, ou vous suivez juste vos envies du moment ? Est-ce que, enfin, ce truc un peu à la compulsion d'achat, un peu cette question-là. Comment vous sentez par rapport à ça ? Est-ce que vous avez été. Est-ce qu'il y a une évolution, ou ça a été dans votre éducation ? C'est un peu plus ça, la question.
Pour ma part. Ok. En fait, très tôt, je me suis posé beaucoup de questions, tu vois, sur la consommation, sur les passions, sur ces pulsions, en fait, tu vois. Ça m'agaçait, vraiment, ça m'agaçait d'être addict à quelque chose et que ça prenne le dessus sur mes intentions, sur ce que je fais. C'est-à-dire, comment c'est possible que j'ai envie de faire des choses, mais parce que j'ai une pulsion, en fait, c'est tellement plus fort que moi que du coup, je me trahis, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que cette trahison, je la supporte pas. Si je me dis à moi-même que je dois faire des efforts sur ma consommation, ou que, par exemple, j'ai un budget, tu vois, j'ai travaillé ce mois-ci, j'ai un budget, ben voilà, je me suis fixé tel budget pour des courses, donc de la nourriture, ou tel budget pour des vêtements, c'est une trahison envers moi-même de dépasser ce budget, en fait. Tu vois, et tu t'éduques comme ça au quotidien. Moi, en tout cas, c'est comme ça que ça a marché. C'est vraiment de m'éduquer comme ça au quotidien. Si je dis que je dois faire du sport, même si je suis pas toujours régulière, ben c'est une trahison envers moi-même de pas le faire. Tu vois. Et du coup, j'ai l'impression, moi personnellement, ce qui m'a aidée, c'est juste de cultiver de l'amour propre. On se rend pas compte que, moi, en tout cas, je me rendais pas compte que c'était lié à ça. Tu vois. Si je prends soin de moi, ben je fais attention à ce que je fais. Et donc, j'ai presque plus. C'est vraiment très rare où j'arrive pas à me contrôler. Tu vois, il y a plein de choses qui me tentent, la vérité, la tentation elle est partout, mais j'ai assez travaillé sur moi en m'isolant aussi pendant quelques années, tu vois, à ne plus avoir de réseaux sociaux, à ne plus être hyper in, tu vois, genre être toujours à l'affût des modes, des tendances, etc. Ça c'est un truc, ça me... Je peux plus en fait, tu vois, parce que je sais que ça t'absorbe, comme on a dit tout à l'heure, ça absorbe ton âme, c'est trop. Donc aujourd'hui, je suis capable d'être sur les réseaux sociaux parce que je sais que c'est sain, tu vois. J'arrive à me retenir. Quand je vois une pub hyper qui me donne trop envie, eh ben je sais me contenir, en fait, tu vois. Je vais pas avoir de pulsion d'achat compulsif, mais ça se travaille vraiment avec le temps, ça prend des années.
Ouais, je pense je pourrais en témoigner. Diana, tu voulais en parler, tu voulais donner ton point de vue sur la question.
Ouais, moi déjà avant que je me voile, j'ai été une fashion addict. J'aimais trop ça. Pareil, je sortais beaucoup, je mangeais tout le temps dans des restos, dans des trucs et tout. Enfin bref, pour moi, ma vie, c'était... Et pourtant, très casanière. Hein. Mais à la moindre occasion, si je pouvais, j'allais consommer, entre grosses guillemets, un peu tout et n'importe quoi. quand je me suis voilée, ça m'a permis de me re-questionner sur mon rapport à la consommation de manière générale et surtout les vêtements, parce que vu que j'avais mis du temps à retrouver un style en tant que personne qui porte le hijab, au fur et à mesure du temps, je me limite, enfin, naturellement en fait, hein, mon placard il se vidait et j'étais bien avec ça. Là, par exemple, mes vêtements, ils tiennent sur une commode de 6 tiroirs Ikea, quoi. Enfin, et je suis complètement OK avec ça. Par contre, moi, là où j'ai un problème, et c'est une réalité, c'est vraiment la nourriture. Genre, depuis un an et demi, j'ai développé un rapport avec la nourriture qui est très, très, très compliqué. Et du coup, malheureusement, comme tu disais, vu que j'ai conscience que cette prise de poids, elle est liée à un événement particulier, ce qui a développé un... Je ne vais pas dire un manque d'amour propre, mais plus une mini-autodestruction qui fait que je ne peux que me consoler avec ça et s'aider à tout ça. Pour ce qui est des vêtements, pour revenir sur ce sujet-là, en vrai, ça va. Genre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais après, c'est vrai que par exemple, je vais me dire, bon, une paire de chaussures dans l'année, ça va, je vais me permettre quand même de temps en temps. Mais dans mon idéal, ça serait genre une à deux paires que je vais tirer pendant 3-4 ans, voire 5 ans, 6 ans, peu importe, et me restreindre, enfin revenir sur l'essentiel de la vie en fait, qui est de travailler sur l'intérieur de soi plus que sur acheter pour faire croire qu'on travaille sur soi.
J'aime beaucoup aimer la dernière phrase.
J'aimerais vraiment rebondir sur ce que tu dis avec... En fait, moi, je le vois comme... c'est-à-dire que le voile, c'est la pudeur, en fait, tu vois. Et du coup, même si t'es pas voilée, moi, en tout cas, quand j'étais pas voilée, je me posais ces questions. Tu vois, je me disais, OK, en vrai, qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est ma façon d'être perçue par le monde ou c'est qui je suis ? Est-ce que j'ai envie qu'on regarde mon apparence ? Est-ce que j'ai envie qu'on m'apporte de l'importance par rapport à mon apparence ou par rapport à ce que je dis ? Tu vois ? Donc c'est là où personnellement j'ai vraiment développé ce truc de être minimaliste. Mais bon, minimaliste aujourd'hui, j'ai l'impression que
ça veut tout et rien dire.
Mais en gros, de pas être attaché. En gros, tu vois, à ce qui est vestimentaire, un peu ce que moi je peux appeler superficiel, même si, tu vois, même ces termes-là, ça se redéfinit un peu, mais je pense qu'on comprend un peu ce que je veux dire. Mais ouais, c'est vraiment être détaché de ça, parce que tu mets toute ton énergie sur ta personne, sur ce que tu dis, sur comment tu réfléchis, sur comment tu raisonnes, comment tu t'instruis, tu vois. Et donc, ça amène... éviter la surconsommation en fait.
Ce que tu me dis, ça me fait penser à, je sais plus c'est qui, c'est le fondateur de Apple, je crois, qui s'habille toujours pareil pour éviter cette surcharge mentale
De penser à
le
ça,
matin. Oui. Et ben ça ouais, attends, je voulais dire un truc mais par rapport à ça, mais j'ai oublié. Ah oui, c'est que tu disais que en gros, genre le fait de moins t'attarder sur comment te vêtir, etc., ça te permet d'avoir plus d'énergie sur le travail de soi. Et c'est hyper honorable parce que justement dans une société où on te pousse constamment à travailler sur ton physique, sur ton paraître en fait, plutôt que sur ton être, frérot, en fait même quand tu dors tu continues de... tu te reposes jamais en fait puisque tu penses à tout ça quoi.
On te donne de la valeur en fait, tu vois, surtout aujourd'hui avec les réseaux. Moi j'ai redécouvert les réseaux parce que j'ai eu mon commerce. Tu vois. Donc là, ça fait quoi ? Ça fait un an et demi. Et donc, j'ai dû être active sur les réseaux sociaux, un truc que je détestais à la base. Et là, j'ai vu tout un monde que j'esquivais, et j'ai été forcée, en gros, d'y mettre mon nez. Et en fait, chaque fois, je suis surprise. Je me dis, mais les gens, ils sont matrixés, en fait. Tu vois ? Moi, ça me fait de la peine, mais je vois que à un moment donné, j'ai commencé à... Là, j'ai fait une pause, parce que j'ai vu que moi aussi, ça commençait à m'aspirer.
C'est ça que j'allais te demander. C'est toi, en tant que chef d'entreprise, justement, comment tu arrives à gérer ton rapport avec les réseaux sociaux alors? Parce que vraiment, quand tu as une entreprise, tu es obligée d'animer tous les jours ton concept.
Surtout que moi, par exemple, tu vois, j'avais pas encore... Enfin, j'ai pas les moyens, forcément, pour alimenter... Enfin, ouais, pour... construire mon projet en dehors des réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ont le budget et tu vois, ils sortent des réseaux, ils n'en ont même pas besoin. Moi, personnellement, je ne pouvais pas. Donc, c'est compliqué parce qu'à un moment donné, tu es esclave de l'algorithme, tu es esclave des tendances. Et moi, en fait, c'est comme si j'ai fait un contrat avec moi-même. Si je me lance dans cette aventure, il faut que je sois réglo, tu vois. Il y a des choses dans lesquelles je ne dois pas tomber, il y a des limites que je dois m'imposer. Donc, par exemple, ne pas être dans les tendances. T'as vu, quand il y a des trucs à la mode, des réels à la mode, des TikTok à la mode, jamais je le ferai. Mm. Tu vois, moi, c'est, dans ma tête, c'est jamais je ferai ça. Même s'il y a des choses qui sont à la mode aujourd'hui, je sais pas ce qui est à la mode en ce moment. À un moment donné, c'était les bérets. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça.
Ah, des tendances vestimentaires.
Vestimentaires. Et ben, je dois pas tomber dedans. Je dois avoir une ligne directrice. Les gens, s'ils aiment bien, tant mieux. S'ils aiment pas, tant pis. Tu vois.
Ok.
Et ben, en fait, c'est surprenant, mais moi, ça a marché comme ça.
Ouais.
Ça t'a peut-être même démarqué de tout ce qui se faisait.
Ouais, ok,
je capte ça.
Moi, je vais un peu partager mon expérience, après j'aurai des questions, parce que je trouve que c'est intéressant de parler de surconsommation avec des personnes dont le métier est de vendre. Enfin, peu importe, je trouve ça super intéressant, parce que, bon, bref, on y viendra après. Mais moi, mon rapport à la surconsommation en général... mon grand frère, il aime bien dire ça et je trouve ça drôle. Mais il dit merci la Hesse parce que ça nous a obligés à penser ce qu'on devait acheter.
Mais grave.
Je sais que si j'avais eu de l'argent à certaines périodes de ma vie, j'aurais acheté des trucs inutiles. Et donc même après en ayant l'argent, enfin je remercie Dieu, mais j'ai plus d'argent qu'à une époque, même si bon, voilà. Mais voilà. Et donc je peux me permettre de m'acheter des trucs pour moi, mais je suis obligée de penser 20 fois avant d'acheter un truc. Parce que j'ai eu ces réflexions pendant longtemps, à réfléchir longtemps à est-ce que je veux l'acheter ? Moi, il y avait demandé à mes parents si ça valait le coup. Moi, j'arrivais, si je voulais acheter un truc, j'arrivais avec un PowerPoint. Je devais convaincre mes parents. Mais du coup, j'étais pas très demandeuse. Mais quand je demandais un truc, parfois c'était des trucs hyper chers. Genre une fois, pour mes 12 ans, j'ai eu un appareil photo. Mais genre pendant des années, du coup, j'avais pas demandé un truc. Mais pour moi, il me fallait cet appareil photo à ce moment-là. Et ma mère, elle m'a dit « Ok ». Elle a passé son chèque cadeau de Noël et elle m'a dit « Va prendre ton appareil photo et je l'ai utilisé jusqu'à qu'on me le vole. » Voilà, c'était le drame, j'avais 16 ans. Mais du coup, j'ai utilisé 4 ans et pour moi, c'est super important quand j'achète un truc de me dire, d'avoir une réflexion. Genre là, j'ai acheté une paire de chaussures, ça fait 8 mois que j'y pense et j'étais vraiment en mode oui, Sarah, au bout d'un moment, tes chaussures, elles sont vraiment défoncées, il faudrait que tu achètes une nouvelle paire de chaussures. Et j'ai toujours été dans cette réflexion-là. Mais je sais que ça a été un cheminement qui m'a été forcé. Donc c'était une sobriété qui n'était pas tendance, mais imposée, parce qu'il y avait un manque de moyens. Et il y avait aussi ce truc où j'essayais d'être en accord avec moi-même, parce que j'ai toujours prôné ce truc d'avoir de la réflexion dans ce que je fais, dans ce que je dis, etc. Et donc pour moi, c'était important aussi de l'avoir dans mon mode de consommation. Et même dans mon groupe d'amis, j'ai toujours été un peu la fille qui achète du seconde main ou qui a du seconde main. D'ailleurs, je parle d'acheter du seconde main, mais on m'a souvent aussi beaucoup donné de vêtements. Parce que ma mère, elle travaille dans le service pour la personne. Donc, elle est souvent chez les gens et on se retrouvait avec des gens très riches qui jetaient des quantités énormes de vêtements, de vaisselle, etc., qui étaient en très bon état, qui ne donnaient même pas, c'était pour les jeter. Et ma mère, du coup, elle s'est toujours retrouvée avec des gros sacs remplis de trucs totalement fonctionnels. Et j'ai toujours eu cette habitude de consommer de seconde main parce que je prenais des choses qui devaient finir dans une veine... à la place de venir chez moi et de redistribuer. Donc il y avait ce truc de pas créer encore plus, ou alors de créer que quand ça paraît utile. Enfin, il y avait tout ce rapport-là. Et donc tout ça intégré en grandissant. Bien sûr que ma première paye, j'ai voulu acheter je sais pas combien de trucs et tout, parce qu'il y avait cette frustration aussi. J'ai aussi... je suis pas du tout minimaliste, je me considère pas du tout minimaliste. Je pense que je suis plus consciente dans ma manière d'acheter, mais j'aime avoir certains objets. J'aime beaucoup aussi garder les cadeaux, même si je suis une personne qui se sent très mal à l'aise quand elle reçoit des cadeaux matériels. J'accorde beaucoup d'importance aux objets que les gens m'ont offerts. Et j'aime bien quand c'est associé à un souvenir, etc. Alors que vraiment, quand je m'achète un truc, si je dois m'en débarrasser le lendemain, c'est pas grave. Genre, ça n'aura aucun effet sur moi, même si ça m'a coûté hyper cher. J'ai cette réflexion, par exemple, plusieurs fois dans ma vie, on m'a volé mon téléphone.
Pardon.
Mais après, je suis une personne d'être en l'air, donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Et les gens étaient toujours choqués de la manière dont je ne paniquais pas. En général, les téléphones, pour la plupart, c'était mon argent. Donc, les moments où je paniquais, c'est quand c'était l'argent de mes parents, mais j'avais une assurance. Et il y avait une fille qui était. En fait, je lui avais prêté mon téléphone dans la bibliothèque, elle l'a laissé sur la table et on est parti. Et quand on est revenu, il n'y avait plus de téléphone. Et donc, comme je lui avais passé le téléphone, elle s'excusait, elle était en mode mais non, c'est ton téléphone, comment tu vas faire ? J'étais là, bon, j'ai une assurance, j'aurai un autre téléphone. Elle était là, oui, mais quand même, enfin, c'est ton téléphone. Et j'étais là, mais c'est pas grave, genre, il t'est rien arrivé, il m'est rien arrivé. on va bien. Et j'ai toujours été dans cette démarche-là. Et elle était vraiment choquée que je sois autant détachée de cet objet. Et je crois que la seule fois où j'ai paniqué pour un téléphone, déjà, on me l'a rendu. C'est très drôle comme anecdote. Mais aussi, j'étais paniquée pour le téléphone parce que j'avais pris en photo des cours et j'avais aucun moyen de les avoir d'une autre manière. Donc moi, c'était vraiment l'utilité de l'objet plutôt que l'objet en lui-même. Mmh. Et oui, enfin, donc j'ai eu ce détachement aux objets qui a été forcé. Et avec maintenant, c'est un peu devenu ma philosophie de vie. Mmh. Malgré
toi.
Ouais, les changements de moyens que j'ai pu avoir ou la différence, mais et je sais que ça a été un cheminement assez long, que ça fait partie de mon éducation aussi, que c'est un mélange aussi de rencontres que j'ai eues, de conscience que ce soit sociétale ou écologique. Enfin, quand j'achète, je dis pas que je suis la personne la plus éthique dans ce que j'achète, mais je me pose la réflexion de est-ce que ça vaut vraiment le coup quand même sur plein de trucs. Et même sur la nourriture, on en parlait, mais moi j'ai un rapport très bizarre à la nourriture. Depuis l'enfance, j'étais une enfant forte, même si quand je regarde les photos, je vois vraiment un petit être tout mignon et tout, mais c'est des réflexions qu'on m'a fait beaucoup. Donc j'ai voulu diminuer très rapidement, j'ai pensé au mot régime, j'avais 6 ans. Pour moi c'est dingo quand t'es enfant et de penser autant à vouloir avoir une image si jeune, à un âge si précoce. Et mais j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a une bonne éducation sur la nourriture, donc j'ai toujours mangé de tout en quantité pour pas avoir faim. J'ai toujours été une enfant qui aimait manger. Et même quand j'ai eu cette phase où je voulais faire un régime, ma mère elle me faisait, elle essayait de compenser, elle faisait non, vas-y, tu vas. Enfin, il fallait que mon équilibre soit toujours là dans l'alimentation, et j'ai pas eu cette habitude de manger dehors. Donc après, quand j'ai grandi, je mange dehors, j'aime beaucoup manger, vraiment j'aime la nourriture, mais je peux être facilement lassée de la nourriture de dehors parce que j'ai cette habitude là de manger à l'intérieur. Mmh. Et même après, il y a un moment où j'ai travaillé pendant mes études dans la restauration rapide, et tout le monde me disait ouais, t'as accès à tout, et j'étais là mais ça me dégoûte, je sens la friture tous les jours. Pour moi c'est pas possible, j'ai pas cette habitude là de vie. Enfant, je mangeais une fois dans l'année dans un fast food, et c'est quand on faisait les courses de rentrée. C'était vraiment on a fini les grosses courses et on va manger. J'avais pas du tout cette habitude là, et je remercie ma mère, mais ouais, je sais que c'est des habitudes qui prennent du temps à être faites. Donc surtout si t'es dans un schéma où acheter c'est une compensation, ça comble un manque, c'est des trucs comme ça, et c'est plus psychologique que vraiment vouloir qu'un besoin, c'est compliqué de s'en détacher. Mmh. Et ça prend du temps, donc je pense que mon conseil ce serait d'y aller par étapes. Mais comme je me sens même pas forcément concernée parce que j'ai pas eu cette approche là même si j'ai eu une évolution et une prise de conscience obligatoire. Mais oui, je ne me vois pas être une doleuse de leçons, alors que pour moi, il y avait des facilités qui étaient évidentes. Je ne me vois pas comme être prise comme exemple. Mm. Mais j'aime bien être dans mon groupe d'amis, la meuf référente. Dès qu'ils achètent un truc sur Vinted, ils sont en mode « Tu sais, je l'ai pris sur Vinted et tout, je l'ai acheté de seconde main. » Tout le monde, il y a comme un truc de « Sarah, regarde.
» C'est bon ou pas ?
J'ai pas surconsommé. Mais ça me fait plaisir. Mais ouais, j'ai pas cette prétention de...
Mais tu peux surconsommer même avec du vintage. Hein.
Totalement.
Acheter de la seconde main, moi aussi, je suis très seconde main, tu vois, j'aime trop aller dans des friperies, dénicher des petites... Bah, là, ce que je porte, en fait la plupart de ce que je porte c'est du vintage, tu vois. Et mais tu peux surconsommer même comme ça, en fait. Surconsommer, c'est juste, enfin moi en tout cas, ma définition de la surconsommation c'est juste consommer au-delà de du besoin.
Oui.
T'es plus dans le besoin, t'es juste c'est juste, voilà, t'as envie de te faire plaisir, mais tu vas trop loin en fait dans ton plaisir. Tu vois, tu te retrouves avec je sais pas combien de paires de jeans, je sais pas combien de paires de sacs, juste parce qu'il y a un détail qui est différent et qu'il le faut absolument. C'est chaud. Tu vois. Donc tu peux surconsommer même dans le vintage.
Ah, finalement. Mais totalement, oui.
Tu vois.
J'en ai totalement conscience.
Là, j'avoue, j'ai faibli. Tu vois les vestes sans manches qui font un peu
matelassé.
Non, genre un peu safari. Tu vois,
avec plein de poches et tout.
Ouais, avec plein de poches. Ah. Et j'avoue, j'en ai acheté trois. J'avoue.
Les mêmes ou
en fripe?
Non, mais les mêmes ou
pas les mêmes, mais ben justement, tu vois, c'était ça la différence, c'est que l'une elle était en lin, l'autre elle était nana, mais c'est pas bon. Bah, je me suis punie.
c'est ton petit plaisir.
Ouais, ouais. C'est ton plaisir coupable. Non, mais oui. Moi, j'ai... Ouais, je parlais de consommation pas parfaite du tout. Mais il y a pas longtemps, dans un centre commercial, il y avait un pop-up avec plein de trucs en fripe. Et le dernier jour, il y avait plein de trucs à 1 euro. Ça, par contre, je pense qu'il y a un truc de... Quand il y a une promo... Bah, beaucoup moins maintenant. Je trouve que maintenant qu'il y a des promos tout le temps, ça rend encore moins l'achat
désirable.
Mmh. Mais je crois qu'il y avait une période de ma vie, même en étant enfant et tout, dans les achats, il y avait... il fallait absolument acheter pendant les soldes. Mmh. Ouais. Parfois, c'est limite se créer une nécessité pour se dire j'ai fait la bonne affaire.
Mais ça, c'est transmis par les parents, ça.
Oui. Bah, ouais.
Parce que je sais pas si à leur époque, déjà, quand ils étaient plus jeunes, il y avait ça. Il y avait ce principe de promotion, solde et tout. Mais forcément, bah, quand ils ont des gosses, on va sauter sur l'occasion. Mmh. Quoi.
Ouais, c'était, il fallait que tu trouves ton truc.
À ce moment-là, sinon, tu n'achètes pas de l'année, tu n'as pas d'habit de l'année.
Exactement. Mais ouais. Et moi, du coup, l'année dernière, je me suis retrouvée avec une robe de bal à 1 euro. Donc, si quelqu'un veut m'inviter à un bal, vraiment. En fait, je l'ai vu sur le portant. En plus, je faisais des allers-retours. Je me suis dit, non, tu n'en as pas besoin. Je l'ai essayé à l'été à ma taille et j'ai dit, non, tu n'en as pas besoin.
Elle est arrivée à la caisse, elle a sorti son porte-monnaie. Non, tu n'en as pas besoin.
Et puis, t'es là, 1 euro.
Je comprends. Mais vous voyez, par exemple, pour, concernant les vêtements, quand tu disais. Un pantalon avec une étoile, un pantalon sans l'étoile. En gros, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de 36 000 pantalons. Enfin, même 36 000 vêtements, peu importe. Pendant que vous parliez, ça me faisait gamberger sur le rapport que malgré que j'ai peu d'affaires, enfin peu de vêtements, j'ai du coup avec le vêtement et que beaucoup de personnes ont, je pense, avec le vêtement. Je pense qu'on est beaucoup à avoir le vêtement comme une forme de... d'expression, comme tu peux utiliser de la peinture pour aller peindre tes tableaux, etc. Et justement, dans ce principe-là de réflexion, je me dis que ça reste dommage quand même, parce qu'on contribue du coup à cette surconsommation qui est un mal pour la planète. Et ça m'a poussée, même il y a quelques semaines, quelques mois auparavant, à réfléchir à comment... pas travestir, mais comment convertir du coup ce rapport avec l'argent qui reste pour beaucoup une expression d'être, je vais pas dire de l'âme, parce que l'âme c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond que ça, bien que le rapport aux vêtements que j'ai, en tout cas moi, je le trouve assez profond pour dire que c'est une expression artistique. Mais du coup, dans quelle mesure, enfin, je me demande depuis un petit moment comment on peut emmener une autre réflexion face à ça, enfin du moins comment on peut sans faire du mal à la planète, en fait, apporter sa petite pierre à l'édifice pour la conserver tout en étant satisfait de consommer et donc de porter un certain nombre de vêtements. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Comment continuer à s'exprimer sans
avec beaucoup de vêtements, mais pas beaucoup de vêtements, tu vois. Non, tu vois pas.
Bah,
oui, y a pas de solution en soi, hein, ouais. Mais c'est trouver une alternative, en fait, ouais. Sur comment on peut se complaire dans le fait de se faire kiffer en portant des vêtements divers et variés, mais tout en étant par exemple, il y a des principes de location. Enfin, je sais qu'il y a des entreprises de location de vêtements qui ont ouvert. Bon, ça a pas trop marché parce qu'en fait l'humain est égo, donc forcément il a besoin que les choses lui appartiennent. Et pas que... en tout cas, que le vêtement soit loué et puis porté à d'autres, etc. Mais je me dis que c'est une bonne alternative, malheureusement, qui ne fonctionne pas maintenant.
Oui. Bah, moi, après, je vois la customiser, en fait, tu vois. Ouais. Après, dans le fait de customiser, je vois ça de plein de manières différentes. Mais en gros, en fait, des fois, il faut juste faire preuve d'imagination, je trouve. Mmh. T'as des personnes, quand tu les regardes, t'as l'impression qu'elles sont tout le temps habillées différemment. En réalité, c'est juste qu'elles...
Elles changent leurs vêtements, ouais.
En fait, c'est pas qu'elles changent leurs vêtements, c'est qu'elles changent la façon de porter le vêtement.
Ouais, enfin, elles le modifient.
Voilà. Mmh. Et tu peux jouer avec des tissus. Je trouve que les tissus aussi, en France, on n'est pas assez... on les manie pas assez, tandis que dans d'autres pays, oui. Tu vois, il y a... Un tissu, tu peux le porter de plein de manières différentes. Ça peut être une écharpe, ça peut être... enfin bref, tu peux le porter de plein de façons différentes. Donc ouais, faire preuve d'imagination. J'ai l'impression que ça te permet de toujours continuer à t'exprimer à travers ton style vestimentaire, tout en restant un peu plus... en faisant attention à ta consommation.
Mmh. Ouais, moi, je te rejoins un peu sur ça. Moi, je fais beaucoup ça. Je porte différemment les vêtements. Parce que j'aime pas porter la même tenue exactement de la même manière. mais je peux porter les mêmes éléments et en faire une tenue différente. Par exemple, j'avais vécu un mois dans un autre pays avec un bagage cabine, et donc il fallait, et je faisais des tenues presque différentes avec des éléments, exactement les mêmes éléments, le même pantalon, le même haut. Et même quand je prenais des photos et que j'envoyais les tenues à mes potes, elles me faisaient, mais on dirait que tu changes de tenue tous les jours. J'ai dit, je suis venue avec le même bagage, j'ai pas acheté de vêtements, je reste sur le même truc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'applique de manière naturelle au quotidien, parce que j'ai toujours eu un besoin de m'exprimer par la manière dont je m'habille. D'ailleurs, on avait fait une émission avec Diana sur la mode et le style, où j'en parlais, et j'ai besoin de m'exprimer de cette manière-là. Mais j'ai plus cette attache au tissu, à la matière, plutôt qu'à avoir énormément de vêtements. Et c'est en partie pour ça que le projet est né, parce que j'ai un projet du coup sur la mode et la sensibilisation à l'industrie du textile, qui est hyper polluante. Pour moi, c'était important de faire le rapport aux deux. Et pour moi, c'était aussi important qu'il y ait une activité manuelle. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Diana de faire le projet, parce que le projet, c'est de faire de la sensibilisation le matin et de faire un atelier de couture et d'upcycling l'après-midi, parce que pour moi, c'était important de montrer qu'on peut porter des choses de manière différente. Mmh. Après, selon moi, sociétalement, ça ne sera pas ce qui va sauver la planète. Genre, même si tout le monde se met à l'upcycling. Mais montrer que les gens sont intéressés par le fait de réduire leur consommation dans l'achat de vêtements, etc. Ça permet d'avoir un poids, si le projet il est gros, de montrer aux gens qui prennent des décisions que c'est pas de cette manière-là que les gens veulent consommer. Ou en tout cas, c'est plus de cette manière-là. Ou alors les gens se posent plus de questions. Parce que en fait, il y a un espèce d'effet ping-pong. Il y a tout ce truc où tu te dis... J'essaye de vider l'océan avec une petite cuillère, donc ça risque d'être long. Et c'est pas chaque action individuelle, mais plein d'actions individuelles rassemblées peuvent montrer une idée globale qui va forcément impacter les décisions qui sont prises en haut, genre l'industrie, les politiques. Enfin, il y a ce truc qui doit se faire une équivalence qui doit faire des deux côtés.
Il faut que ça part de nous. En fait.
Exactement. Il y a des trucs qui nous sont imposés. Mais on doit pouvoir imposer des trucs. Genre
mais oui, parce que justement, en vrai, le peuple, c'est en gros le client héros. Enfin, c'est le client roi, quoi. Enfin, nous, si demain on décide, entre guillemets, hein, dans un monde utopique, si tous ensemble on décide que, vas-y, en fait, on veut plus surconsommer comme ils nous proposent de le faire, enfin, comme ils nous imposent de le faire, bah, ils changeraient complètement la donne. Eux, ils savent que, au bout de 6-7 mois, je crois, 7-8 mois, ou... enfin bref, on a déjà utilisé 1,7 de la consommation énergétique mondiale. Enfin, c'est une dinguerie. Donc, ils savent ce qu'ils font. C'est juste que nous, en fait, on continue de vivre comme des moutons. Et les actions comme ça, je pense que c'est bien. Les actions comme ça, je pense que c'est bien, justement, de les mettre en place, même si, comme tu dis, c'est la petite cuillère qui ramasse l'eau dans l'océan. Parce que, bah, du coup, step by step, du moins, j'espère, que bah, les choses puissent faire écho, en fait... d'humain à humain, enfin en tout cas dans notre société en France, et voir ce qui peut en découler après par la suite, et ce qui peut en découler en parallèle aussi.
Ouais. Surtout que moi-même, l'action là, que je mets en place, il y a aussi tout un truc, un pan de l'école, et c'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance à la sensibilisation des plus jeunes âges, parce que c'est cultiver un truc qui existe, et montrer qu'il y a des possibilités, sans que ce soit pour autant culpabilisant, montrer des alternatives, montrer des choses qui existent, des choses qui sont faites, montrer des modes de consommation différents. Peut-être que ça va pas l'impacter et que la personne elle va faire une grosse commande d'ultra fast fashion le lendemain de mon intervention dans l'école. C'est pas très grave, mais peut-être que ça aura de l'impact quand elle aura un autre pouvoir d'achat, qu'elle aura aussi la capacité de se poser des questions, parce que je pense que la petite enfance, c'est bien de faire de la sensibilisation, mais c'est pas forcément eux qui achètent, donc c'est pas les acheteurs de maintenant qu'on impacte. Mais pour moi, genre, des actions comme ça, si t'as cet effet ricochet qui se fait, que c'est des actions qui se multiplient aussi, et que ça permet aussi de donner la voix et la place à des gens qui sont dans cette envie-là de consommer autrement et de montrer une consommation qui diverge de ce qu'on essaie de nous imposer. Je trouve que c'est intéressant de laisser cette place-là et de faire des projets. Ouais, ça permet aussi à d'autres projets similaires d'avoir des financements d'autres personnes beaucoup plus influentes, quoi. Et moi, c'est la question que je me posais aussi, parce que vous faites des métiers où il faut vendre, hein, comment vous vous positionnez du coup dans cette dualité où il faut quand même que vous puissiez vendre ce que vous faites, mais dans cette sobriété, j'aime beaucoup votre manière et votre manière de penser, votre état d'esprit, etc. Mais comment on arrive à trouver un équilibre dans ce truc où il faut quand même vivre pour gagner, il faut vivre donc gagner de l'argent et sa pensée principale.
Bah écoute, moi pour ma part en tout cas, j'en vis pas encore. Enfin, par exemple, quand je faisais justement le fait d'avoir eu cette comment dire, cette illumination de ah ouais, j'aimerais bien faire un truc, enfin, j'aimerais bien apporter ma contribution à toute cette surconsommation et tout, bah, c'est ça qui m'a emmenée à créer mon atelier de retouche et de confection en début 2024. Bon, j'en faisais déjà un peu aux blagues, mais début 2024 jusqu'à l'année dernière, genre fin 2025, je me suis lancée dans l'aventure et tout, c'était bien. Puis j'avais l'impression voilà, de contribuer à ça à ma manière. Mais c'était très énergivore. Enfin, mentalement, j'arrivais plus à tenir le rythme. Puis vu que j'avais pas encore d'atelier, c'était compliqué. C'était compliqué en fait de mêler et vie pro et vie perso, enfin tout ensemble. Donc du coup, j'ai arrêté. Là, ce que je fais, j'en vis pas, honnêtement, parce que là, du coup, je fais des petites capsules à gauche à droite, de vente de vêtements, tout ça, et en quantité limitée, parce que pareil, je veux pas, j'ai pas envie de contribuer à tout ça, mais malheureusement. J'ai envie de vivre de mes activités. J'ai pas envie de retourner dans le salariat. Donc du coup, j'ai trouvé, on va dire, d'autres solutions pour pallier à ça. Donc, proposer des quantités limitées, mais pas non plus vendre genre des centaines de milliers de pièces, et surtout des centaines de modèles en plusieurs milliers de modèles, mais plus partir, par exemple, sur des tissus dormants. Ça, je me dis que c'est un bon compromis aussi pour contribuer à ça, parce que dans tous les cas, ces tissus-là, ils sont là, ils attendent juste une chose, c'est de vivre autrement plutôt que de rester et de prendre la poussière ou de finir dans des décharges, enfin bref. Donc voilà, en tout cas, c'est l'une des premières solutions que j'ai trouvées pour la création de ma future marque qui arrive bientôt. Donc on verra ce que ça va donner.
J'ai hâte de voir ça.
Moi aussi.
J'ai hâte aussi.
Et toi, Nada, du coup
En fait, moi, pendant des années, j'ai pas voulu entreprendre pour ça. Ça me saoulait vraiment, ça me gavait de voir comment on crée le besoin chez les autres. En plus, moi, comme je vous ai dit, bah, j'étais pas sur les réseaux, donc je diabolisais beaucoup ça. Maintenant, bon, c'est un peu plus modéré maintenant, mais avant, vraiment, j'aimais pas du tout. Et donc, je me disais, mais tu vois, voilà, toutes ces pubs, tous ces partenariats, toutes les fois où on pousse les gens à consommer, ça me dérangeait vraiment. Parce qu'en fait, tu regardes une vidéo et tu penses que tu peux pas vivre sans avoir ce produit, tu vois. Et quand tu regardes des vidéos un peu qui te parlent de commerce, tu vois, qui ont de l'expérience, quand on te parle de marketing, on te dit que voilà, faut jouer avec la psychologie, faut pousser la personne. Il y a vraiment toute une stratégie derrière, tout un stratagème, tu vois, pour pousser les gens à consommer. Et ça m'a vraiment dérangée. Et du coup, j'ai laissé traîner un peu ça. J'avais des idées, mais je laissais traîner. Et puis est venu le moment où moi j'ai entrepris, et en fait ça s'est fait un peu, tu vois, comme ça, avec le temps. C'est-à-dire que moi, en fait, je vends des couvre-chefs, donc c'est des chapeaux, il y a des casquettes, des bobs, un peu de tout, tu vois. Et en fait, c'est parce qu'à la base j'en porte, et donc la dame au chapeau, c'est parce que les gens m'appellent comme ça, tu vois. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire, parce qu'on m'arrête dans la rue pour me demander où j'achète mes chapeaux. Quand je vais quelque part, on me reconnaît parce que j'ai un truc sur la tête. Et en fait, ce qui me gênait, c'était de me dire, ben, pourquoi ? Parce que je porte un chapeau, ça paraît superficiel. Pourquoi c'est extravagant ? Pourquoi un chapeau, c'est extravagant, alors que ça me permet juste de couvrir ma tête. Quand il y a du soleil, j'ai pas envie, tu sais, de toujours froncer les sourcils parce que j'arrive pas à voir devant moi, etc. Je me disais, mais en vrai, moi, je porte des chapeaux parce que c'est utile, tu vois. Et je me rappelle qu'à Strasbourg, on parlait sur moi en pensant que je comprenais pas. En disant, bah, qu'est-ce qu'elle a, celle-là, tu sais, avec son chapeau sur la tête, tu sais, genre, pour qu'elle se prend, etc. Mais vraiment, c'était hallucinant.
C'est n'importe quoi.
Et je me suis dit, ben, en fait, là, c'était ma fierté plutôt qui avait pris un coup. Et je me disais, bon, là, ça se voit que si j'entreprends, c'est pas pour créer un besoin chez les autres, mais c'est parce qu'il y a un besoin, tu vois. Les gens, ils ont besoin de se couvrir la tête, surtout en été. Et en plus, moi, je suis voilée. Et ça me saoulait, je sais pas si toi, ça te fait pareil, mais tu sais, d'avoir la trace du foulard sur le front, là. Moi, j'ai l'impression qu'on ressemble à un hublot. T'as une trace comme ça sur le front, la démarcation du bronzage.
Du full. Ah oui, oui, oui.
Quand tu bronzes.
Elle est moins prononcée, la mienne.
Ok. Bah, moi, elle était prononcée de fou, tu vois. Et ça me saoulait. Je me disais, bah, donc, je portais encore plus de couvre-chef. Et donc, bref, tu vois, les réflexions, elles sont arrivées. Et quand j'ai vraiment dû lancer mon projet, bah, là, encore une fois, je me suis assise avec moi-même. J'ai fait un contrat avec moi-même pour me dire, Nada, quand tu voudras vendre, ne crée pas de besoin chez l'autre. Et ça, c'est un truc, jamais tu me verras le faire, jamais, jamais, jamais tu me verras le faire, de faire croire à l'autre qu'il lui faut absolument mon article. Sinon, il pourra pas passer l'été. Sinon, non, c'est si t'as besoin de faire une randonnée, voilà le bob qu'il te faut. Si t'as besoin d'être couverte, tu veux un truc un peu classe, chic, voilà le chapeau qu'il te faut, la casquette qu'il te faut, nanana. C'est en fonction de toi et ta vie, voilà ce que je peux te proposer. Mais jamais je créerai un besoin chez toi, une nécessité absolue, jamais de la vie. Mm. Enfin, Inch'Allah, qu'Allah me préserve. On parle trop vite, mais en tout cas, c'est vraiment ma ligne de conduite jusqu'à aujourd'hui. Mm. Et ça se ressent, en tout cas, moi, les retours qu'on me fait. Parce que moi, du coup, bah, j'ai réussi à en vivre. Même si là, j'ai fait une petite pause, ça a un peu ralenti parce que dans ma vie perso, il y a eu des bousculements, etc. Donc, j'ai pas pu suivre, équilibrer les choses. Mais bah, en fait, les retours qu'on me fait, finalement, c'est... Bah, en fait, on achète parce que c'est naturel, tu vois, on se sent pas forcé à acheter. Toi, tu présentes juste les choses, et en plus, tu montes au quotidien, parce que comme je les porte, tu vois, ça se voit que je vends pas un truc que je porte pas. Enfin, tu vois, des fois, c'est un peu contradictoire. Et là, c'est juste naturel, et donc ça donne encore plus envie d'acheter. Et je trouve que des fois, faut juste faire les choses naturellement. Mmh. Pas besoin d'aller dans des stratégies de fou, à absolument vouloir vendre un truc aux autres. Parfois, il faut que je reste naturel, j'ai l'impression, en tout cas.
Ouais, je suis d'accord.
Ouais, moi, je ne suis pas du tout dans un métier de vente, mais ça fait écho à une chose spéciale. Moi, je suis pas mal sur les réseaux. Enfin, je le suis et je ne le suis pas, c'est très bizarre. Mais j'ai toujours eu mes potes qui m'appellent l'influenceuse et qui me disent « Ouais, t'aurais grave pu être influenceuse et tout. » Mais je sais que c'est un truc que je n'aurais pas pu faire parce que pour moi, c'est... pour que ce soit rentable, il faut que tu deviennes un panneau publicitaire. Et c'est un truc que je n'aurais pas pu faire, genre que mon quotidien se soit poussé les gens à consommer. J'avais ce truc de, en fait, je serais la pire influenceuse parce que je dirais aux gens de ne pas acheter, donc je serais dans l'influence négative et du fait de, bah, de manière sur ce que je m'exprime, enfin les sujets sur lesquels je parle, etc. Il peut y avoir aussi une dissonance avec des marques. Je pense que ça limiterait en fait mon champ de possibilités de pouvoir faire de ce truc un truc rentable. Et j'en ai toujours eu pleinement conscience. Mais pour moi, ouais, c'était important même dans mes choix de vie et des choix de ce que je fais, la manière dont je gagne de l'argent, de rester alignée avec la personne que je suis. Moi, j'ai fait un choix de faire de la science, alors que j'ai toujours été une très bonne communicante. C'est un truc qu'on m'a toujours dit. Et là, j'ai de la chance de pouvoir faire un truc où je dois communiquer de la science et la vulgariser au plus grand nombre. Et je trouve que ça s'aligne parfaitement avec la manière dont je pense, et etc. Mais oui, il y a cette dualité parce que je sais qu'il y a beaucoup de trucs où je me disais, on m'a dit, on me chuchotait dans l'oreille, faut faire de l'argent quand même, tu vois. Donc il y a ce truc où il y a des projets où tu as des idées et tu te dis, ah, en vrai, il y a tout le monde qui pourrait, et tu te dis, ah, reviens en arrière. Si tout le monde voudrait, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est pour les bonnes choses, etc. Donc, je trouve ça intéressant quand tu vois ta réflexion et que tu t'alignes ton commerce avec la manière dont tu te sens en tant que personne. Parce que je pense que, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est un truc qui mange beaucoup dans ta vie, la manière dont tu es, etc. Parce que ça prend beaucoup de temps. Et donc, c'est encore plus compliqué de se dissocier de son travail puisque ça fait partie de toi, je pense, encore plus que les personnes qui dépointent à 18h. Et même dans cet aspect-là, moi, je pense que c'est un truc que j'aurais pas pu faire, même si c'est un truc que je dois dépointer à long terme. Genre, je pense que sur le court terme, tu peux te permettre, mais me perdre dans ce truc d'argent et d'appât. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un jour une émission sur la société en général et le capitalisme.
Mais, je suis pour.
Ouais, mais oui, la surconsommation, ça me permet de parler de ça. D'ailleurs... on fait presque une heure d'émission. D'habitude, on a une coupure musicale. Mais écoutez, on va faire de la sobriété aujourd'hui. Il n'y aura pas de coupure musicale. Mais on fait une coupure musicale en milieu d'émission. Mais moi-même, en général, pendant le ramadan, je fais une cure non musicale. Ouais. Pourtant, je suis une très grosse consommatrice de musique. Vraiment, quand tu vois mes stats, c'est affolant.
On est deux.
C'est affolant. Mais.
Bon, moi, ça rentre dans la.
Ah, totalement. Moi, je me rendrai justement, on peut faire cette transition-là. Ouais. Il nous reste 10 minutes d'émission. Mais il y a une surconsommation, du coup, dans l'immatériel, dans l'art, les films, les séries. Moi, je sais que je.
Après, c'est normal, Sarah. On est dans une époque où tout est ultra connecté, où on a les informations à la seconde. Moi, je trouve ça. Je vais pas dire. En fait, je sais pas que c'est normal, mais c'est justifié du pourquoi on tombe comme ça, comme tu viens de le faire là. On tombe, on se relève. Parce qu'en fait, on a tout en confronté à des trucs qu'on aime. T'imagines ? Ça, c'est pas juste on est confronté à des infos et puis on passe. Non, c'est des trucs qu'on kiffe, il y en a plein. Donc.
On est surstimulé.
Ouais.
Et en fait, moi, je vois ça comme des rafales, tu vois. C'est des rafales, mais vraiment, ça vient de partout. C'est la bouffe, l'art, la musique, les vêtements, les trucs. Tu surconsommes tout et c'est tellement rapide, tu vois. En fait, tu peux tout avoir à la demande. Aujourd'hui, tes courses, tu peux les avoir à la demande. Le fast-food, t'es plus obligé de sortir pour l'avoir. Les séries, les trucs, ils les sortent hyper rapidement. Ils font des épisodes courts aussi. Et en plus, je sais pas si vous avez vu Netflix, le temps d'attente entre un épisode et un autre, ils l'ont raccourci. J'avais vu un truc comme ça, je sais même pas. Je suis en train de balancer des informations, je les ai même pas confirmées, mais en
tout cas, j'avais vu cette information.
Ouais, tu l'avais aussi, voilà. Merci, tu confirmes. Donc, ouais, c'est fou, tu vois. En fait, on laisse pas le temps à ton cerveau de respirer, tu vois. Et la musique, moi, au-delà, tu vois, du truc religieux et tout, moi, c'est juste, tu vois, comme je disais, le fait qu'il y ait quelque chose qui domine mon esprit. Genre, comment quelque chose peut avoir plus d'impact que moi, mes réflexions, tu vois. En mode, là, j'ai absolument besoin de musique. Ben non. Enfin, tu sais, par exemple, tu t'es dit, ouais, ok, je dois faire une tâche, et finalement, tu tombes dans la distraction, parce que tu fais autre chose. Ou une série, par exemple, tu tombes tellement dedans, comme t'as dit, tu tombes dedans, que t'arrives plus à sortir de la journée, parce que tu dois absolument finir l'épisode. Et puis un, puis deux, puis... On sait très bien comment ça finit, tu vois, on a tous fait ça. Moi, j'étais gosse, et je sortais pas de chez moi, parce que j'enchaînais des Bollywood, j'enchaînais des séries, des trucs et tout. Et quand je... Tu sais, tu fais une rétrospection, tu fais un... Tu t'assois avec toi-même, en fait. Tu vois, il y a une parole que Omar Ibn Khattab disait... en fait, il disait qu'il fallait se juger soi-même avant qu'on se fasse juger. Tu vois, assis-toi avec toi-même. Vraiment, pose-toi la question. Tu vois, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment raisonnable en vrai? Tu vois, genre d'être soumis à quelque chose, parce qu'on est soumis en fait. On se rend pas compte, genre on est soumis au système. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est bon?
Ça l'est pas. Puis en vrai, quand on. Enfin, moi, j'ai fait une conclusion, c'est que je pense que si on est autant stimulé, autant soumis, enfin, s'il y a autant de. Bon, là, je vais peut-être rentrer dans une théorie complotiste.
Ce n'est pas la première fois dans cette émission.
Bon, bah, c'est OK alors. Mais c'est, je pense que, justement, en fait, en t'écoutant, j'ai réalisé que tu étais maître de toi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vise aussi, que Dieu me l'accorde. Mais du coup, j'ai remarqué que donc, enfin, ma théorie c'était que si on est surchargé autant d'infos, autant de stimuli, c'est justement pour éviter qu'on soit maître de nous-mêmes. Parce que si on n'est plus maître de nous-mêmes, on leur accorde plus autant d'argent que ce qu'ils voudraient.
Mais oui.
Et c'est triste pour eux. Mais bien c'est sûr. Tout gagnant pour nous. Donc, ouais, devenons maître de nous-mêmes.
Oui, je pense que ce serait une très bonne conclusion pour cette émission. C'est vrai que la sobriété, ça demande de la discipline et c'est compliqué de se dire en tant qu'être humain de délaisser des plaisirs et de se dire que pour mon bien, sur le long terme, je dois me restreindre. C'est compliqué de se l'avouer, etc. Moi aussi, on avait commencé cette émission en parlant du fait que je sois beaucoup plus sobre sur toute ma consommation pendant le Ramadan. Et pour moi, la musique, ça en fait essentiellement partie. C'est même pour moi, essentiel que je le coupe totalement, même si je l'ai pas fait, ça fait pas longtemps que je le coupe totalement pendant le Ramadan du tout, mais pour moi c'est essentiel pour me recentrer sur moi-même. Et après, même quand j'ai commencé à faire ça, ça a encore plus posé à la réflexion quand je reprends déjà, parce qu'il y a ce cheminant où je ne reprends, c'est pas jour 1 je remets mon casque, je relance tous les albums que j'ai loupés pendant un mois, etc. Mais ça m'a permis de voir aussi comment je centrais ça dans ma vie ou pas, et de voir aussi la manière dont j'avais de consommer ces musiques. Par exemple, je sais que dans ma première étape de stopper, c'était j'écoute plus de nouveaux trucs pendant cette période-là. Genre, j'ai pas le droit de faire de nouvelles découvertes. Genre, je dois me contenter de mes playlists et c'est tout. Mmh. Donc, il y avait tout ce truc où. Et je pense que pour des gens, genre, ce que je suis en train de dire, c'est totalement ridicule. Genre, de dire j'écoute pas de nouvelles musiques. Pour eux, ils écoutent les mêmes musiques depuis 10 ans. Et moi, j'étais dans ce truc de il faut que je découvre le nouvel artiste, mmh. il faut que je découvre la nouvelle pépite, il faut que je sois à la page de tout, etc. Et donc, il y avait vraiment ce truc, quand on parle depuis le début de cette émission, mais qui m'aspirait, où j'avais besoin d'être tout le temps connectée et de pouvoir après en parler avec des gens qui écoutent la même chose que moi et d'être dans cette réflexion tout le temps, de devoir tout le temps être à la page. Et même s'il n'y avait pas cet aspect monétaire ou cet aspect truc, c'était vraiment une consommation qui m'affectait et dont j'avais besoin de me distancer pour me sentir un peu plus moi et pouvoir me laisser la liberté de penser. Je pense que dans tout ce qui avait été dit, il y avait ce truc de vouloir se distraire à tout prix. Et je pense que c'est dangereux de tout le temps se demander comment se distraire, parce que ça nous empêche de penser et d'être en réflexion avec soi-même et de se recentrer sur les choses essentielles. Je pense que pas tout le monde a cette vision-là.
Il y a Sofiane Méziani qui dit il faut s'ennuyer. Il faut apprendre à s'ennuyer. Ouais. Un enfant aussi, c'est pareil dans l'éducation. Il dit les enfants aujourd'hui, ils sont surmenés, ils vont à l'école, puis les activités, puis les trucs, nanana. Laissez-les s'ennuyer, tu vois. Ouais. Il faut, nous, en tant qu'adultes, on a oublié de faire ça aussi.
Ah oui.
On n'y arrive plus.
C'est important. C'est vrai qu'on essaie tout le temps de combler un vide, que ce soit matériellement ou même dans l'espace, le son. Soit j'écoute des podcasts ou alors j'ai mon casque pour pas qu'on vienne me parler, parce que j'ai un visage très souriant et donc beaucoup de gens viennent me parler. Mais je dis parfois, j'ai genre rien. Genre juste, j'observe, j'écoute les oiseaux. Et c'est génial. Franchement, faites-le même une fois dans le mois s'il faut. Mais
Il faut,
voilà. Donc, je pense qu'on va conclure sur ça parce qu'on arrive à 1 heure. C'est passé super vite.
Ouais,
j'ai beaucoup aimé la conversation. Merci, les filles, d'avoir répondu présent.
Merci à toi.
Et on va se retrouver la semaine prochaine. Si vous êtes dispo, il n'y a pas de souci, mais on va parler d'être une femme dans notre société.
Ouais.
Grave.
Donc voilà, je pense qu'on sera beaucoup autour de la table parce que j'ai beaucoup de copines qui voulaient venir.
Trop bien.
Mais voilà, donc on se dit à la semaine prochaine. Et
bisous.
Voilà, bisous.
Bonne soirée.
Réfléchissez à votre surconsommation ou à votre consommation en général.